Bertin eut une petite rage comprimée. Et quand il serra la main de l'inspecteur des Beaux-Arts, il se sentit une envie de le prendre par les épaules et de le jeter dehors. Musadieu était plein de nouvelles. Le ministère allait tomber et on chuchotait un scandale sur le marquis de Rogliane. Il ajouta en regardant la jeune fille « Je compterai cela un peu plus tard ». La comtesse leva les yeux sur la pendule et constata que 10 heures allaient sonner. « Il est temps de te coucher, mon enfant !» dit-elle à sa fille. Annette, sans répondre, plia son tricot, roula sa laine, baisa sa mère sur les joues, tendit la main aux deux hommes et s'en alla prestement, comme si elle eût glissé sans agiter l'air en passant. Quand elle fut sortie, « Eh bien, votre scandale ! » demanda la comtesse. On prétendait que le marquis de Rogliane, séparé à l'amiable de sa femme, qui lui payait une rente jugée par lui insuffisante, avait trouvé, pour la faire doubler, un moyen sûr et singulier. La marquise, suivie sur son ordre, s'était laissée surprendre en flagrant délit et avait dû racheter par une pension nouvelle le procès-verbal dressé par le commissaire de police. La comtesse écoutait, le regard curieux, les mains immobiles, tenant sur ses genoux l'ouvrage interrompu. Bertin, que la présence de Musadieu exaspérait depuis le départ de la jeune fille, se fâcha et affirma avec une indignation d'homme qui sait et qui n'a voulu parler à personne de cette calomnie que c'était là un odieux mensonge. Un de ces honteux potins que les gens du monde ne devraient jamais écouter ni répéter. Il se fâchait, debout maintenant contre la cheminée, avec des airs nerveux d'homme disposé à faire de cette histoire une question personnelle. Rogliane était son ami, et si on avait pu en certains cas lui reprocher sa légèreté, on ne pouvait l'accuser ni même le soupçonner d'aucune action vraiment suspecte. Musadieu, surpris et embarrassé, se défendait, reculait, s'excusait. « Permettez, disait-il, j'ai entendu ce propos tout à l'heure chez la duchesse de Mortemain. » Bertin demanda « Qui vous a raconté cela ? Une femme, sans doute ?»« Non, pas du tout, le marquis de Farandal. » Et le peintre, crispé, répondit « Cela ne m'étonne pas de lui. » Il y eut un silence. La comtesse se remit à travailler. Puis Olivier reprit d'une voix calmée. « Je sais pertinemment que cela est faux. » Il ne savait rien, entendant parler pour la première fois de cette aventure. Musadieu se préparait une retraite, sentant la situation dangereuse, et il parlait déjà de s'en aller pour faire une visite aux corbelles, quand le comte de Guilleroy parut, revenant de dîner en ville. Bertin se rassit, accablé, désespérant à présent de se débarrasser du mari. « Vous ne savez pas, dit le comte, le gros scandale qui court ce soir ?» Comme personne ne répondait, il reprit « Il paraît que Rogliane a surpris sa femme en conversation criminelle et lui fait payer fort cher cette indiscrétion. » Alors Bertin, avec des airs désolés, avec du chagrin dans la voix et dans le geste, posant une main sur le genou de Guilleroy, répéta en termes amicaux et doux ce que tout à l'heure il avait paru jeter au visage de Musadieu. Et le comte, à moitié convaincu, fâché d'avoir répété à la légère une chose douteuse et peut-être compromettante, plaidait son ignorance et son innocence. On raconte en effet tant de choses fausses et méchantes. Soudain, tous furent d'accord sur ceci. Que le monde accuse, soupçonne et calomnie avec une déplorable facilité. Et ils parurent convaincus tous les quatre, pendant 5 minutes, que tous les propos chuchotés sont mensonges, que les femmes n'ont jamais les amants qu'on leur suppose, que les hommes ne font jamais les infamies qu'on leur prête, et que la surface, en somme, est bien plus vilaine que le fond. Bertin, qui n'en voulait plus à Musadieu depuis l'arrivée de Guilleroy, lui dit des choses flatteuses, le mit sur les sujets qu'il préférait, ouvrit la vanne de sa faconde. Et le comte semblait content comme un homme qui porte partout avec lui l'apaisement et la cordialité. Deux domestiques, venus à pas sourds sur les tapis, entrèrent portant la table à thé où l'eau bouillante fumait dans un joli appareil tout brillant sous la flamme bleue d'une lampe à esprit de vin. La comtesse se leva, prépara la boisson chaude avec les précautions et les soins que nous ont apportés les Russes, puis offrit une tasse à Musadieu, une autre à Bertin, et revint avec des assiettes contenant des sandwiches au foie gras et de menues pâtisseries autrichiennes et anglaises. Le comte s'étant approché de la table mobile, où s'alignaient aussi des sirops, des liqueurs et des verres, fit un grog, puis discrètement glissa dans la pièce voisine et disparut. Bertin, de nouveau, se trouva seul en face de Musadieu. Et le désir soudain le reprit de pousser dehors ce gêneur, qui, mis en verve, pérorait, semait des anecdotes, répétait des mots, en faisait lui-même. Et le peintre sans cesse consultait la pendule dont la longue aiguille approchait de minuit. La comtesse vit son regard, comprit qu'il cherchait à lui parler, et, avec cette adresse des femmes du monde, habiles à changer par des nuances le ton d'une causerie et l'atmosphère d'un salon, à faire comprendre, sans rien dire, qu'on doit rester ou qu'on doit partir, répandit, par sa seule attitude, par l'air de son visage et l'ennui de ses yeux, du froid autour d'elle, comme si elle venait d'ouvrir une fenêtre. Musadieu sentit ce courant d'air glaçant ses idées, et, sans qu'il se demandât pourquoi, l'envie se fit en lui de se lever et de s'en aller. Bertin, par savoir-vivre, imita son mouvement. Les deux hommes se retirèrent ensemble en traversant les deux salons, suivis par la comtesse qui causait toujours avec le peintre. Elle le retint sur le seuil de l'antichambre pour une explication quelconque, pendant que Musadieu, aidé d'un valet de pied, endossait son paletot. Comme madame de Guilleroy parlait toujours à Bertin, l'inspecteur des Beaux-Arts, ayant attendu quelques secondes devant la porte de l'escalier, tenue ouverte par l'autre domestique, se décida à sortir seul pour ne point rester debout en face du valet. La porte doucement fut refermée sur lui. Et la comtesse dit à l'artiste avec une parfaite aisance « Mais au fait, pourquoi partez-vous si vite? Il n'est pas minuit. Restez donc encore un peu. » Et ils rentrèrent ensemble dans le petit salon. Dès qu'ils furent assis, « Dieu, que cet animal m'agaçait !» dit-il. « Et pourquoi ?»« Il me prenait un peu de vous. »« Ah, pas beaucoup. » »« C'est possible, mais il me gênait. » »«
Vous êtes jaloux. »
« Ce n'est pas être jaloux que de trouver un homme encombrant. » Il avait repris son petit fauteuil et, tout près d'elle maintenant, il maniait entre ses doigts l'étoffe de sa robe en lui disant quel souffle chaud lui passait dans le cœur ce jour-là. Elle écoutait, surprise, ravie, et doucement elle posa une main dans ses cheveux blancs qu'elle caressait doucement, comme pour le remercier. « Je voudrais tant vivre près de vous, » dit-il. Il songeait toujours à ce mari couché, endormi sans doute dans une chambre voisine, et il reprit « Il n'y a vraiment que le mariage pour unir deux existences. » Et elle murmura « Mon pauvre ami, » pleine de pitié pour lui et aussi pour elle. Il avait posé sa joue sur les genoux de la comtesse, et la regardait avec une tendresse un peu mélancolique, un peu douloureuse, moins ardente que tout à l'heure, quand il était séparé d'elle par sa fille, son mari et Musadieu. Elle dit, avec un sourire, en promenant toujours ses doigts légers sur la tête d'Olivier, « Dieu, que vous êtes blanc! Vos derniers cheveux noirs ont disparu !»« Hélas, je le sais, ça va vite !» Elle eut peur de l'avoir attristé. « Oh, vous étiez gris, très jeune d'ailleurs,
Je vous ai toujours connu poivre et sel. »
Oui, c'est vrai.
Pour effacer tout à fait la nuance de regret qu'elle avait provoquée, elle se pencha et, lui soulevant la tête entre ses deux mains, mit sur son front des baisers lents et tendres, ces longs baisers qui semblent ne pas devoir finir. Puis ils se regardèrent, cherchant à voir au fond de leurs yeux le reflet de leur affection.
« Je voudrais bien, dit-il,
passer une journée entière près de vous. » Il se sentait tourmenté obscurément par d'inexprimables besoins d'intimité. Il avait cru tout à l'heure que le départ des gens qui étaient là suffirait à réaliser ce désir éveillé depuis le matin. Et maintenant qu'il demeurait seul avec sa maîtresse, qu'il avait sur le front la tiédeur de ses mains, et contre la joue, à travers sa robe, la tiédeur de son corps, il retrouvait en lui le même trouble, la même envie d'amour inconnue et fuyante. Et il s'imaginait à présent que, hors de cette maison, dans les bois peut-être, où il serait tout à fait seul, sans personne autour d'eux, cette inquiétude de son cœur serait satisfaite et calmée. Elle répondit « Que vous êtes enfant, mais nous nous voyons presque chaque jour !» Il la supplia de trouver le moyen de venir déjeuner avec lui, quelque part aux environs de Paris, comme ils avaient fait jadis 4 ou 5 fois. Elle s'étonnait de ce caprice si difficile à réaliser maintenant que sa fille était revenue. Elle essaierait cependant, dès que son mari irait aux bonnes, mais cela ne se pourrait faire qu'après le vernissage qui avait lieu le samedi suivant.
« Et d'ici là, dit-il, quand vous verrai-je ?
Demain soir chez les Corbelles. Venez en outre ici jeudi, à 3 heures, si vous êtes libre. Et je crois que nous devons dîner ensemble vendredi chez la Duchesse. »
« Oui, parfaitement. »
Il se leva.
« Adieu. »«
Adieu, mon ami. » Il restait debout sans se décider à partir, car il n'avait presque rien trouvé de tout ce qu'il était venu lui dire, et sa pensée restait pleine de choses inexprimées, gonflées d'effusions vagues qui n'étaient point sorties. Il répéta « Adieu » en lui prenant les mains.
« Adieu, mon ami.
Je vous aime. » Elle lui jeta un de ces sourires où une femme montre à un homme, en une seconde, tout ce qu'elle lui a donné. Le cœur vibrant, il répéta pour la 3e fois « Adieu !» Et il partit. 4e chapitre. On eût dit que toutes les voitures de Paris faisaient ce jour-là un pèlerinage au palais de l'Industrie. Dès 9 heures du matin, elles arrivaient par toutes les rues, par les avenues et les ponts, vers cette halle aux Beaux-Arts où le tout Paris artiste invitait le tout Paris mondain à assister au vernissage simulé de 3 400 tableaux. Une queue de foule se pressait aux portes et, dédaigneuse de la sculpture, montait tout de suite aux galeries de peinture. Déjà, en gravissant les marches, on levait les yeux vers les toiles exposées sur les murs de l'escalier où l'on accroche la catégorie spéciale des peintres de vestibule qui ont envoyé soit des œuvres de proportions inusitées, soit des œuvres qu'on n'a pas osé refuser. Dans le salon carré, c'était une bouillie de monde grouillante et bruissante. Les peintres, en représentation jusqu'au soir, se faisaient reconnaître à leur activité, à la sonorité de leur voix, à l'autorité de leurs gestes. Ils commençaient à traîner des amis par la manche vers des tableaux qu'ils désignaient du bras, avec des exclamations et une mimique énergique de connaisseurs. On en voyait de toutes sortes, de grands à longs cheveux, coiffés de chapeaux mous, gris ou noirs, de formes inexprimables, larges et ronds comme des toits, avec des bords en pente, ombrageant le torse entier de l'homme. D'autres étaient petits, actifs, fluets ou trapus, cravatés d'un foulard, vêtus de vestons ou ensaqués en de singuliers costumes spéciaux à la classe des rapins. Il y avait le clan des élégants, des gommeux, des artistes du boulevard, le clan des académiques, corrects et décorés de rosettes rouges, énormes ou microscopiques, selon leur conception de l'élégance et du bon ton. Le clan des peintres bourgeois, assistés de la famille, entourant le père comme un cœur triomphal. Sur les quatre panneaux géants, les toiles admises à l'honneur du salon carré éblouissaient, dès l'entrée, par l'éclat des tons et le flamboiement des cadres, par une crudité de couleurs vives, avivées par le vernis, aveuglantes sous le jour brutal tombé d'en haut. Le portrait du président de la République faisait face à la porte, tandis que sur un autre mur, un général, chamarré d'or, coiffé d'un chapeau à plumes d'autruche et culotté de drap rouge, voisinait avec des nymphes toutes nues sous des saules et avec un navire en détresse presque englouti sous une vague. Un évêque d'autrefois, excommuniant un roi barbare, une rue d'Orient pleine de pestiférés morts et l'ombre de Dante en excursion aux enfers, saisissait et captivait le regard avec une violence irrésistible d'expression. On voyait encore, dans la pièce immense, une charge de cavalerie, des tirailleurs dans un bois, des vaches dans un pâturage, deux seigneurs du siècle dernier se battant en duel au coin d'une rue, une folle assise sur une borne, un prêtre administrant un mourant, des moissonneurs, des rivières, un coucher de soleil, un clair de lune, des échantillons, enfin, de tout ce qu'on fait, de tout ce que font et de tout ce que feront les peintres jusqu'au dernier jour du monde. Olivier, au milieu d'un groupe de confrères célèbres, membres de l'Institut et du jury, échangeait avec eux des opinions. Un malaise l'oppressait, une inquiétude sur son œuvre exposée, dont, malgré les félicitations empressées, il ne sentait pas le succès. Il s'élança, la duchesse de Mortemain apparaissait à la porte d'entrée. Elle demanda « Est-ce que la comtesse n'est pas arrivée ?»«
Je ne l'ai pas vue. » »«
Et monsieur de Mussadieu ?»«
Non plus. » »«
Il m'avait promis d'être à 10 heures au haut de l'escalier pour me guider dans les salles. »«
Voulez-vous me permettre de le remplacer, duchesse ?»
Non, non, vos amis ont besoin de vous. Nous vous reverrons tout à l'heure, car je compte que nous déjeunerons ensemble. »
Mussadieu accourait. Il avait été retenu quelques minutes à la sculpture et s'excusait, essoufflé déjà. Il disait « Par ici, duchesse, par ici, nous commençons à droite. » Il venait de disparaître dans un remous de tête quand la comtesse de Guilleroy, tenant par le bras sa fille, entra, cherchant du regard Olivier Bertin. Il les vit, les rejoignit, et, les saluant, « Dieu, qu'elles sont jolies !» dit-il. « Vrai, Nanette embellit beaucoup. En 8 jours, elle a changé. » Il la regardait de son œil observateur. Il ajouta, « Les lignes sont plus douces, plus fondues, le teint plus lumineux. Elle est déjà bien moins petite fille et bien plus parisienne. » Mais soudain, il revint à la grande affaire du jour. « Commençons à droite, nous allons rejoindre la duchesse. » La comtesse, au courant de toutes les choses de la peinture et préoccupée comme un exposant, demanda « Que dit-on ? » « Beau salon, le bonnet remarquable, 2 excellents Carolus Durand, un Puvis de Chavannes admirable, un rôle très étonnant, très neuf, un Gervex exquis, et beaucoup d'autres, des Béraud, des Cazin, des Duet, des tas de bonnes choses, enfin. « Et vous ? » dit-elle. « On me fait des compliments, mais je ne suis pas content. »
« Vous n'êtes jamais content. »
« Si, quelquefois, mais aujourd'hui, vrai, je crois que j'ai raison. »
« Pourquoi ? » ?»«
Je n'en sais rien. » »«
Allons voir. »
Quand ils arrivèrent devant le tableau, deux petites paysannes prenant un bain dans un ruisseau, un groupe arrêté l'admirait. Elle en fut joyeuse, et tout bas, « Mais il est délicieux ! C'est un bijou ! Vous n'avez rien fait de mieux !»
ils se serraient contre elle, l'aimant, reconnaissant de chaque mot qui calmait une souffrance, pensait une plaie. Et des raisonnements rapides lui couraient dans l'esprit pour le convaincre qu'elle avait raison, qu'elle devait voir juste avec ses yeux intelligents de parisienne. Il oubliait, pour rassurer ses craintes, que depuis 12 ans, il lui reprochait justement d'admirer trop les mièvreries, les délicatesses élégantes, les sentiments exprimés, les nuances bâtardes de la mode. Et jamais l'art, l'art seul, l'art dégagé des idées, des tendances et des préjugés mondains. Les entraînant plus loin, « Continuons, » dit-il. Et il les promena pendant fort longtemps de salle en salle, en leur montrant les toiles, leur expliquant les sujets, heureuse entre elles, heureux par elles. Soudain, la comtesse demanda « Quelle heure est-il ? »
« 12h30. »«
Oh, allons vite déjeuner. La duchesse doit nous attendre chez le doyen où elle m'a chargé de vous amener, si nous ne la retrouvions pas dans les salles. »
Le restaurant, au milieu d'un îlot d'arbres et d'arbustes, avait l'air d'une ruche trop pleine et vibrante. Un bourdonnement confus de voix, d'appels, de cliquetis de verres et d'assiettes voltigeait autour, en sortait par toutes les fenêtres et toutes les portes grandes ouvertes. Les tables, pressées, entourées de gens en train de manger, étaient répandues par longues files dans les chemins voisins, à droite et à gauche du passage étroit, où les garçons couraient, assourdis, affolés, tenant à bout de bras des plateaux chargés de viande, de poissons ou de fruits. Sous la galerie circulaire, c'était une telle multitude d'hommes et de femmes qu'on eût dit une pâte vivante. Tout cela riait, appelait, buvait et mangeait, mis en gaieté par les vins et inondé d'une de ces joies qui tombent sur Paris en certains jours avec le soleil. Un garçon fit monter la comtesse, Annette et Bertin, dans le salon réservé où les attendait la duchesse. En y entrant, le peintre aperçut, à côté de sa tante, le marquis de Farandal, empressé et souriant, tendant les bras pour recevoir les ombrelles et les manteaux de la comtesse et de sa fille. Il en ressentit un tel déplaisir qu'il eut envie, soudain, de dire des choses irritantes et brutales. La duchesse expliquait la rencontre de son neveu et le départ de Mussadieu emmené par le ministre des Beaux-Arts. Et Bertin, à la pensée que ce bellâtre de marquis devait épouser Annette, qu'il était venu pour elle, qu'il la regardait déjà comme destinée à sa couche, s'énervait et se révoltait, comme si on eût méconnu et violé ses droits, des droits mystérieux et sacrés. Dès qu'on fut à table, le marquis, placé à côté de la jeune fille, s'occupa d'elle avec cet air empressé des hommes autorisés à faire leur cour. Il avait des regards curieux qui semblaient au peintre hardis et investigateurs, des sourires presque tendres et satisfaits, une galanterie familière et officielle. Dans ses manières et ses paroles apparaissait déjà quelque chose de décidé, comme l'annonce d'une prochaine prise de possession. La duchesse et la comtesse semblaient protéger et approuver cette allure de prétendant, et avaient l'une pour l'autre des coups d'œil de complicité. Aussitôt le déjeuner fini, on retourna à l'exposition. C'était dans les salles une telle mêlée de foule qu'il semblait impossible d'y pénétrer. Une chaleur d'humanité et une odeur fade de robes et d'habits vieillis sur le corps faisaient là-dedans une atmosphère écœurante et lourde. On ne regardait plus les tableaux, mais les visages et les toilettes. On cherchait les gens connus. Et parfois une poussée avait lieu dans cette masse épaisse entr'ouverte un moment pour laisser passer la haute échelle double des vernisseurs qui criaient « Attention, messieurs! Attention, mesdames !» Au bout de 5 minutes, la comtesse et Olivier se trouvaient séparés des autres. Il voulait les chercher, mais elle dit, en s'appuyant sur lui, « Ne sommes-nous pas bien? Laissons-les donc, puisqu'il est convenu que si nous nous perdons, nous nous retrouverons à 4 heures au buffet. » « C'est vrai, » dit-il,
mais il était absorbé par l'idée que le marquis accompagnait Annette et continuait à marivauder près d'elle avec sa fatuité galante. La comtesse murmura « Alors, vous m'aimez toujours ?» Il répondit d'un air préoccupé « Mais oui, certainement !» Et il cherchait, par-dessus les têtes, à découvrir le chapeau gris de monsieur de Farandal. Le sentant distrait et voulant ramener à elle sa pensée, elle reprit « Si vous saviez comme j'adore votre tableau de cette année, c'est votre chef-d'œuvre !» Il sourit, oubliant soudain les jeunes gens pour ne se souvenir que de son souci du matin. « Vrai, vous trouvez ?»«
Oui, je le préfère à tout !»
Et il m'a donné beaucoup de mal. Avec des mots câlins, elle l'enguirlanda de nouveau, sachant bien, depuis longtemps, que rien n'a plus de puissance sur un artiste que la flatterie tendre et continue. Capté, ranimé, égayé par ses paroles douces, il se remit à causer, ne voyant qu'elle, n'écoutant qu'elle dans cette grande cohue flottante. Pour la remercier, il murmura près de son oreille « J'ai une envie folle de vous embrasser !» Une chaude émotion la traversa, et levant sur lui ses yeux brillants, elle répéta sa question « Alors, vous m'aimez toujours ?» Et il répondit, avec l'intonation qu'elle voulait et qu'elle n'avait point entendue tout à l'heure « Oui, je vous aime, ma chère Annie. Venez souvent me voir le soir, » dit-elle. Maintenant que j'ai ma fille, je ne sortirai pas beaucoup. Depuis qu'elle sentait en lui ce réveil inattendu de tendresse, un grand bonheur l'agitait. Avec les cheveux tout blancs d'olivier et l'apaisement des années, elle redoutait moins à présent qu'il fût séduit par une autre femme. Mais elle craignait affreusement qu'il se mariât, par horreur de la solitude. Cette peur, ancienne déjà, grandissait sans cesse, faisait naître en son esprit des combinaisons irréalisables, afin de l'avoir près d'elle le plus possible et d'éviter qu'il passât de longues soirées dans le froid silence de son hôtel vide. Ne le pouvant toujours attirer et retenir, elle lui suggérait des distractions, l'envoyait au théâtre, le poussait dans le monde, aimant mieux le savoir au milieu des femmes que dans la tristesse de sa maison. Elle reprit, répondant à sa secrète pensée, « Ah, si je pouvais vous garder toujours, comme je vous gâterais! Promettez-moi de venir très souvent, puisque je ne sortirai plus guère. » « Je vous le promets. » Une voix murmura près de son oreille, « Maman !» La comtesse tressaillit, se retourna. Annette, la duchesse et le marquis venaient de les rejoindre. « Il est 4 heures, dit la duchesse. « Je suis très fatiguée et j'ai envie de m'en aller. » La comtesse reprit, « Je m'en vais aussi, je n'en puis plus. » Ils gagnèrent l'escalier intérieur qui part des galeries où s'alignent les dessins et les aquarelles et domine l'immense jardin vitré où sont exposées les œuvres de sculpture. De la plateforme de cet escalier, on apercevait un bout à l'autre la serre géante pleine de statues dressées dans les chemins, autour des massifs d'arbustes verts et au-dessus de la foule qui couvrait le sol des allées de son flot remuant et noir. Les marbres jaillissaient de cette nappe sombre de chapeaux et d'épaules, en la trouant en 1000 endroits, et semblaient lumineux tant ils étaient blancs. Comme Bertin saluait les femmes à la porte de sortie, madame de Guilleroy lui demanda tout bas « Alors, vous venez ce soir ?»«
Mais oui !»
Et il rentra dans l'exposition pour causer avec les artistes des impressions de la journée. Les peintres et les sculpteurs se tenaient par groupes autour des statues, devant le buffet, et là on discutait, comme tous les ans, en soutenant ou en attaquant les mêmes idées, avec les mêmes arguments, sur des œuvres à peu près pareilles. Olivier, qui d'ordinaire s'animait à ces disputes, ayant la spécialité des ripostes et des attaques déconcertantes, et une réputation de théoricien spirituel dont il était fier, s'agita pour se passionner, mais les choses qu'il répondait, par habitude, ne l'intéressaient pas plus que celles qu'il entendait, et il avait envie de s'en aller, de ne plus écouter, de ne plus comprendre, sachant d'avance tout ce qu'on dirait sur ces antiques questions d'art dont il connaissait toutes les faces. Il aimait ces choses pourtant, et les avait aimées jusqu'ici d'une façon presque exclusive, mais il en était distrait ce jour-là par une de ses préoccupations légères et tenaces, un de ces petits soucis qui semblent ne nous devoir point toucher et qui sont là malgré tout, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, piqués dans la pensée comme une invisible épine enfoncée dans la chair. Il avait même oublié ses inquiétudes sur ses baigneuses pour ne se souvenir que de la tenue déplaisante du marquis auprès d'Annette. Que lui importait, après tout? Avait-il un droit? Pourquoi aurait-il voulu empêcher ce mariage précieux, décidé d'avance, convenable sur tous les points? Mais aucun raisonnement n'effaçait cette impression de malaise et de mécontentement qu'il avait saisie en voyant le Farandal parler et sourire en fiancé, en caressant du regard le visage de la jeune fille. Lorsqu'il entra le soir chez la comtesse et qu'il la retrouva seule avec sa fille, continuant sous la clarté des lampes leur tricot pour les malheureux, il eut grand-peine à se garder de tenir sur le marquis des propos moqueurs et méchants, et de découvrir aux yeux d'Annette toute sa banalité voilée de chic. Depuis longtemps, en ses visites après dîner, il avait souvent des silences un peu somnolents et des poses abandonnées de vieil ami qui ne se gêne plus. Enfoncé dans son fauteuil, les jambes croisées, la tête en arrière, il rêvassait en parlant et reposait dans cette tranquille intimité son corps et son esprit. Mais voilà que, soudain, lui revinrent cet éveil et cette activité des hommes qui font des frais pour plaire, que préoccupent ce qu'ils vont dire, et qui cherchent, devant certaines personnes, des mots plus brillants ou plus rares pour parer leurs idées et les rendre coquettes. Il ne laissait plus traîner la causerie, mais la soutenait et l'activait, la foyant avec sa verve, et il éprouvait, quand il avait fait partir d'un franc rire la comtesse et sa fille, ou quand il les sentait émues, ou quand il les voyait lever sur lui des yeux surpris, ou quand elle cessait de travailler pour l'écouter, un chatouillement de plaisir, un petit frisson de succès qui le payait de sa peine. Il revenait maintenant chaque fois qu'il les savait seuls, et jamais, peut-être, il n'avait passé d'aussi douces soirées. Madame de Guilleroy, dont cette assiduité apaisait les craintes constantes, faisait pour l'attirer et le retenir tous ses efforts. Elle refusait des dîners en ville, des bals, des représentations, afin d'avoir la joie de jeter dans la boîte du télégraphe, en sortant à 3 heures, la petite dépêche bleue qui disait « À tantôt !» Dans les premiers temps, voulant lui donner plus vite le tête-à-tête qu'il désirait, elle envoyait coucher sa fille dès que 10 heures commençaient à sonner. Puis, voyant un jour qu'il s'en étonnait et demandait en riant qu'on ne traitât plus Annette en petit enfant passage, elle accorda un quart d'heure de grâce, puis une demi-heure, puis une heure. Il ne restait pas longtemps d'ailleurs après que la jeune fille était partie, comme si la moitié du charme qui le tenait dans ce salon venait de sortir avec elle. Approchant aussitôt des pieds de la comtesse le petit siège bas qu'il préférait, il s'asseyait tout près d'elle et posait par moments, avec un mouvement câlin, une joue contre ses genoux. Elle lui donnait une de ses mains qu'il tenait dans les siennes et sa fièvre d'esprit tombant soudain, il cessait de parler et semblait se reposer dans un tendre silence de l'effort qu'il avait fait. Elle comprit bien, peu à peu, avec son flair de femme, qu'Annette l'attirait presque autant qu'elle-même. Elle n'en fut point fâchée, heureuse qu'il pût trouver entre elles quelque chose de la famille dont elle l'avait privée, et elle l'emprisonnait le plus possible entre elles deux, jouant à la maman pour qu'il se crût presque père de cette fillette et qu'une nuance nouvelle de tendresse s'ajouta à tout ce qui le captivait dans cette maison. Sa coquetterie, toujours éveillée, mais inquiète depuis qu'elle sentait de tous les côtés, comme des piqûres presque imperceptibles encore, les innombrables attaques de l'âge, prit une allure plus active. Pour devenir aussi svelte qu'Annette, elle continuait à ne point boire, et l'amincissement réel de sa taille lui rendait en effet sa tournure de jeune fille, tellement que de dos on les distinguait à peine. Mais sa figure amaigrie se ressentait de ce régime. La peau distendue se plissait et prenait une nuance jaunie qui rendait plus éclatante la fraîcheur superbe de l'enfant. Alors elle soigna son visage avec des procédés d'actrice, et bien qu'elle se créât ainsi au grand jour une blancheur un peu suspecte, elle obtint aux lumières cet éclat factice et charmant qui donne aux femmes bien fardées un incomparable teint. La constatation de cette décadence et l'emploi de cet artifice modifièrent ses habitudes. Elle évita le plus possible les comparaisons en plein soleil et les rechercha à la lumière des lampes qui lui donnaient un avantage. Quand elle se sentait fatiguée, pâle, plus vieillie que de coutume, elle avait des migraines complaisantes qui lui faisaient manquer des bals ou des spectacles. Mais les jours où elle se sentait en beauté, elle triomphait et jouait à la grande sœur avec une modestie grave de petite mère. Afin de porter toujours des robes presque pareilles à celles de sa fille, elle lui donnait des toilettes de jeune femme, un peu graves pour elle. Et Annette, chez qui apparaissait de plus en plus un caractère enjoué et rieur, les portait avec une vivacité pétillante qui la rendait plus gentille encore. Elle se prêtait de tout son cœur au manège coquet de sa mère, jouait avec elle, d'instinct, de petites scènes de grâce, savait l'embrasser à propos, lui enlacer la taille avec tendresse, montrait par un mouvement, une caresse, quelque invention ingénieuse, combien elles étaient jolies toutes les deux, et combien elles se ressemblaient. Olivier Bertin, à force de les voir ensemble et de les comparer sans cesse, arrivait presque, par moments, à les confondre. Quelquefois, si la jeune fille lui parlait alors qu'il regardait ailleurs, il était forcé de demander « Laquelle a dit cela ?» Souvent même, il s'amusait à jouer ce jeu de la confusion quand ils étaient seuls tous les trois, dans le salon aux tapisseries Louis XV. Il fermait alors les yeux et les priait de lui adresser la même question l'une après l'autre d'abord, puis en changeant l'ordre des interrogations, afin qu'il reconnût les voix. Elle s'essayait avec tant d'adresse à trouver les mêmes intonations, à dire les mêmes phrases avec les mêmes accents, que souvent il ne devinait pas. Elles étaient parvenues, en vérité, à prononcer si pareillement que les domestiques répondaient « Oui, madame ». À la jeune fille et « Oui, mademoiselle » à la mère. À force de s'imiter par amusement et de copier leurs mouvements, elles avaient acquis ainsi une telle similitude d'allures et de gestes que M. de Guilleroy lui-même, quand il voyait passer l'une ou l'autre dans le fond sombre du salon, les confondait à tout instant et demandait « Est-ce toi, Annette ? Ou est-ce ta maman ?» De cette ressemblance naturelle et voulue, réelle et travaillée, était née dans l'esprit et dans le cœur du peintre l'impression bizarre d'un être double, ancien et nouveau, très connu et presque ignoré, de deux corps faits l'un après l'autre avec la même chair, de la même femme continuée, rajeunie, redevenue ce qu'elle avait été. Et il vivait près d'elle, partagé entre les deux. inquiet, troublé, sentant pour la mère ses ardeurs réveillées et couvrant la fille d'une obscure tendresse.